Rares sont les historiens de la philosophie antique qui ne vous dissuadent pas de lire les philosophes dont ils parlent. Or, avec Gerfagnon, même les langues mortes ont un accent. Et de tous les morts qu'il ressuscite, Plotin est, avec Pierre Dac, le meilleur ami du grand Philhellène. Suivez bien la trajectoire de Plotin, dit-il. Fixez-la dans votre esprit, vous la verrez souvent imitée, rarement égalée, jamais dépassée. De fait, sans l'itinéraire spirituel du grec ancien, la trajectoire de l'historien philographe Gerfagnon eût sans doute été plus terre à terre. Sans Plotin l'indépassable, Gerfagnon n'eût probablement pas été cet enquêteur malicieux qui traque les illuminations indicibles et les réponses aux questions insolubles. Et de même que toute la métaphysique de Plotin ne regarde vers le ciel que pour approfondir l'expérience que nous faisons du monde, de même, Gerfagnon décrit les mystiques au seul nom du bonheur terrestre et du pur plaisir d'exister. Avec lui, c'est en souriant qu'on philosophe.
Je vois, oui, Plotin. C'est assez, j'ose pas dire rigolo, mais ça va faire drôle si je dis que nous avons eu un peu la même expérience à pas mal de siècles de distance, puisque lui c'était au 3e siècle après Jésus-Christ et moi au 20e à l'époque. Le pauvre cher Plotin était à ce moment-là, il cherchait à Alexandrie, il se promenait partout. Il avait fait sa conversion à la philosophie, qui était un thème de l'Antiquité, la conversio ad philosophiam, disons-le en latin, et il cherchait la sagesse. Comme moi j'ai cherché aussi, bon. Et que faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est comme quand on cherche à acheter une voiture, on va voir les concessionnaires, on va chez un tel, je ne fais pas de publicité, donc je ne donnerai pas de marque. Et il est allé voir les stoïciens, il est allé voir les pythagoriciens, il est allé voir les épicuriens, ça les épicuriens, il est pas resté longtemps, les platoniciens, les... Et puis il trouvait rien, alors il était, Porphyre qui raconte sa vie, dit il était triste et un peu, ma mère, ça allait pas quoi. Et puis un jour un copain lui dit, oh tiens tu devrais venir avec moi chez Ammonios, Ammonios Saccas. Si jamais quelqu'un trouve un manuscrit d'Ammonios Saccas, surtout qu'il m'en parle, on n'a jamais rien trouvé de lui. Il va chez Ammonios Saccas et il écoute ses cours, puis il sort de là et il dit à son copain, ça y est, c'est celui-là, je l'ai trouvé, tout en disant, je l'ai trouvé, c'est lui. Et de fait, on s'est toujours demandé ce qu'il y avait trouvé. J'ai une petite idée là-dessus.
Mais dans votre vie, Plotin joue le rôle d'Ammonios.
Exactement, parce que moi j'ai eu la même expérience, à peu près au même âge.
C'est-à-dire à 28 ans, non?
Lui c'était 28 ans, moi c'était 24. Je rentrais d'un tourisme un peu obligatoire en Allemagne et je cherchais...
Vous voulez dire que vous étiez au service du travail obligatoire?
Voilà, auquel je n'avais pas pu échapper grâce à la gentillesse d'un de mes copains qui m'avait dénoncé comme pas précisément pro-nazi. Et alors, revenant dans un assez triste état, j'ai cherché la sagesse parce que ça me plaisait de faire de la philo, j'en avais fait pas mal déjà un peu, bon. Et puis, alors là, j'ai cherché un peu aussi partout. Il y avait toute la le rationalisme tranquille de Brunswick. Il y avait la majesté de Lavelle. Il y avait tout ça. Et puis, il y avait également l'obscure clarté de Sartre qui m'avait beaucoup plu. Il y avait les exégètes des saintes écritures marxistes, contrôlées, si vous voulez, par le Saint-Office moscovite. Il y avait tout ça. Alors là, ça me disait trop rien, non. Et puis, je suis tombé sur un cours, je ne dirai pas de qui, le cours était assez... Depuis, j'ai su que le cours était assez nul, je m'en suis aperçu. Et j'ai un cours sur Plotin, je dis, faut que j'aille voir. Je plonge mon nez là-dedans, et eh bien je ne l'ai jamais retiré, étant donné que depuis tout ce temps-là, Plotin est toujours avec moi. Puis alors on a fait du chemin ensemble, puisqu'on a, on s'est retrouvé avec Augustin, etc. Vous voyez, voilà, en gros, la même expérience. Des gens qui cherchent, qui trouvent pas, puis tout à coup, ils disent, c'est celui-là. Oui. Parce qu'au fond, voilà, à mon humble avis, hein, Platon s'est toujours enseigné depuis les origines jusqu'à ces jours. Hein. L'académie a donné quelque chose d'assez différent du premier Platon, bon, Expésip, etc. Puis après, c'est devenu la nouvelle académie avec les sceptiques. Du coup, on savait plus rien. Bon, qu'est-il arrivé encore? Eh bien, il est arrivé ceci, c'est qu'au premier siècle, des gens comme Eudore d'Alexandrie, qui était pythagoricien, a voulu montrer, a trouvé que la dyade, au-dessus de la dyade, il y avait l'un, hein, une unité qui engendrait la dyade.
Ce que vous désignez comme la dyade étant le jeu du sensible et de l'intelligible,
voilà,
de Platon.
En marchant encore un peu, vous trouvez des gens comme Moderatus de Gades qui a mis au début de son système, il a forcé sur l'un qui vient du Parménide de Platon. Vous avez la vraie fausse lettre 2 de Platon.
Sublime lettre apocryphe.
Exactement, parfaitement d'apocryphe. On n'a jamais su qui avait écrit cette lettre là et qui met également l'un l'un bien avant tout le reste. Et puis alors vous avez après des gens comme Nouménios, Atticos et autres, et on arrive second siècle, fin premier, etc. Et on arrive alors second siècle, on arrive après il y a les oracles chaldaïques, etc., qui viendront après, mais enfin, on arrive à Plotin. Et Plotin, lui, comme il a été voir, comme je disais tout à l'heure, les concessionnaires de toutes les marques de philo, il en a gardé chaque fois le meilleur, et il a platonisé en quelque sorte tous ces gens-là. Il se voulait l'exégète, mais il en a profité pour rehausser d'un cran tout ce qu'il trouvait ailleurs.
Mais cela dit, est-ce qu'il avait besoin des successeurs de Platon? Puisque comme vous le disiez, dans le système plotinien, l'un est au-dessus de l'être.
Il est même au-delà.
Or, il est au-delà. Or, chez Platon, dans la République, au livre 6, on a déjà l'idée d'un au-delà de l'essence. Est-ce qu'il fallait en passer par tous ses successeurs?
Soucias, si mes souvenirs grecs sont bons, au-delà. Je pense que, vous voyez, il n'y a pas que le République 6509B, si je me rappelle, j'ai des de mémoire, mais il y a aussi Parménide 137B, je crois.
Oui. Il décline toutes les possibilités.
Absolument.
Les neuf
hypothèses, mais il y en a que cinq de bonnes, la cinquième aboutissant à la matière. Ben bon. Alors si vous regardez les deux, si vous jouxtez ces deux morceaux de Platon, vous obtenez j'ose pas dire le système néoplatonicien, disons l'arrangement. Il a mis Platon en ordre, si j'ose ainsi m'exprimer, donc il ne l'a pas bousillé, il ne l'a pas tué, au contraire, il l'a exalté, en mettant peut-être un poil d'ordre là-dedans. Et du coup, le néoplatonisme vient de naître, et il commence à partir du moment où un philosophe, où on voit tout être, toute forme d'être et de non-être comme émanant de l'un. Hein. Et ça, c'est le platonisme. Parce que souvent, on voit une rupture où on voit un peu, il aurait jardiné un peu dans les plates-bandes de son divin maître. La seule fête à laquelle il assistait, c'est la Saint-Platon, si j'ose dire, puisqu'il y avait une fête de Platon.
Et il a même voulu monter une cité qui serait fondée sur le système de la République.
Platonopolis. Là, heureusement que l'empereur a refusé le permis de construire. Je me rappelle encore avoir bavardé de ça avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, un très bon connaisseur de Plotin, qui était le père Trouillard, qui était prof à l'Institut catholique, et qui avait fait des thèses remarquables. Sur la procession plotinienne, etc. Et Et il me disait, ben, ça aurait fait du propre. Au fond, vous voyez ça d'ici, regardez simplement les philosophes d'aujourd'hui, mettez-les donc ensemble, je sais pas, moi, dans un club méditerranéen quelconque, et puis vous m'en direz des nouvelles au bout, vous les enfermez au bout de, vous me direz au bout de 15 jours, c'est pas ce qui s'est passé, comment ils sont arrangés, dans quel état ils sont. Alors, faire vivre une cité de philosophes, surtout à une époque où l'Empire commençait à ne plus aller tout à fait très bien. Alors, Galien et Salonine, entre parenthèses, sa femme, c'était le, qui avait suivi les cours de Plotin, c'était le dernier couple philhellène des empereurs, des Césars et Augustes romains.
Hein. Vous voulez dire qu'après le IIIe siècle, c'en était fini de la Grèce à Rome?
Disons que ça a commencé à, ou pas fini de la Grèce à Rome, mais ça a commencé à péricliter dans les, au niveau administratif et au niveau impérial, hein. Oui, après c'est devenu c'était des types merveilleux comme empereurs, mais qui au point de vue philosophique ne valaient pas très 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 cher, c'est pas les fils du Danube. Oui.
Alors Plotin avait pour façon de vivre de négliger son corps, puisqu'on raconte qu'il ne se soignait pas, il souffrait d'un flux de ventre, raconte Porphyre.
Il ne fait rien.
Il ne mangeait pas, il sentait très mauvais. Il avait des ulcères, dit Porphyre, aux mains et aux pieds, et en même temps, quand il faisait court, sa douceur transparaissait, dit Porphyre, et il devenait véritablement beau. De façon générale, Plotin donne le sentiment de vivre en retrait, d'être un homme du retrait. Est-ce que, de ce point de vue, vous vous retrouvez en lui?
Je dirais que de ce point de vue-là, je vais devenir épicurien un petit coup, là, quelques instants.
La
devise, mais voyez-vous, la devise d'Épicure, c'est « late biosas, planque ta vie », autrement dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce point sur lequel je retrouverai, vous voyez, c'est au travers de l'épicurisme que je vais retrouver, l'attitude de, comme on disait autrefois, de votre indigne serviteur. Je n'aime pas tout ce qui apparaît, tout ce qui, non, on est très bien dans son petit coin, on est à son aise. Et là, vous voyez, Plotin était comme ça, mais lui, c'était parce que il estimait que le corps, au fond, c'était lourd à porter. C'était un peu, si vous voulez, cette brouettée de tripes qu'on est obligé de promener à longueur de vie. C'est généralement ça marche pas très bien, sur quelque chose qui va pas, ou bien à ce moment-là, quand ça va très bien, ça vous entraîne dans des conduites qui finalement vous prennent aussi beaucoup de temps et vous risquez également
de vous détourner de
l'essentiel, etc. Quoi, c'est ça qu'il veut dire. Alors le corps, pour lui, c'est pas bon. Il avait honte, dit Porphyre. Il avait honte d'être dans un corps.
Plotin propose, par ailleurs, de, dit-il, sculpter sa propre statue.
Parce que cette statue, elle est spirituelle. C'est-à-dire faire monter vers quelque chose de plus élevé. Toute cette brouette et tripe dont je parlais tout à l'heure, si élégamment, on peut pas dire carnalité, enfin, comme en disant ça comme nous voulons, on s'en fiche, toute cette corporéité, ben, faire monter ça vers quelque chose, vers ce qui donne vie à tout ça, autrement dit l'âme, ben, la psyché, qui est la troisième hypostase, ben. Et puis après faire monter cette psyché vers quelque chose qui dégage de la sensibilité, tout ça, vers les idées, vers la pensée.
Mais est-ce que cette élévation du corps à l'intellect et à l'un ou à l'intelligible avant lui, est-ce que cette élévation, en décrivant cette élévation, Plotin ne décrit pas en somme le parcours de tout artiste qui remet 20 fois sur le métier son ouvrage, ou du sculpteur dont le burin fait jaillir une statue, oui, d'un bloc de marbre? Est-ce qu'en définitive, Plotin ne nous invite, oui, pas à styliser utiliser notre existence plus qu'à y renoncer au profit d'une existence supérieure.
Il y a de ça, mais le peintre ou l'écrivain, on dira qu'il flanque la moitié de son bouquin à la corbeille, c'est voyez, eux, ces gens-là, nous, nous avons toujours notre fichue œuvre dans la tête, tandis que quand Plotin dit qu'il faut sculpter sa statue, il faut que celui qui sculpte sa statue oublie que c'est la sienne, qu'il aille un peu vers un peu plus d'unité, parce que s'il se concentre sur soi-même, eh bien il en arrivera au maximum à la noésis noéseos d'Aristote, à la, autrement dit, comment dire ça gentiment en français, à la pensée de la pensée, hein. Or, c'était le dieu d'Aristote, la pensée de la pensée. Or, du coup, ça fiche l'unité en l'air, puisqu'il se regarde lui-même. Donc, il faudrait essayer de sculpter sa propre statue en oubliant qu'on la sculpte et en oubliant que c'est une statue.
Se faire pur mouvement, accepter de n'être qu'un mouvement.
Et d'être un mouvement qui est centré vers ce qui l'inspire. Car le dieu de Plotin, si, parlons de ça, parlons de l'un comme d'un dieu, si ça fait plaisir, parce que les dieux en réalité c'est le deuxième niveau. Mais il y a rien de moins aliénant que l'un chez Plotin, étant donné que le premier principe est totalement non aliénant. Pourquoi? Eh ben parce que tout ce qui procède de lui procède de lui, de soi-même en même temps que de son principe. C'est ça qui est, voilà, si vous voulez, quand je suis posé en ce monde, je me pose moi-même par ma liberté en même temps que l'un me pose. Donc il me donne de quoi me poser.
Est-ce que ça veut dire que quand on se regarde dans une glace, on déchoit, et quand on regarde au-dessus de soi, on se saisit soi-même?
C'est, si je me regarde dans la glace dans un but bien précis, de ne pas être, d'être à peu près rasé pour ne pas choquer les gens chez qui je me rends.
Ce que Plotin lui-même négligeait de faire.
Ça serait plutôt un bon sens, une bonne direction, parce que je pense aux autres à ce moment-là. Là, sur ce point, il aurait pu, mais est-ce que Porphyre n'en a pas remis un peu, hein? C'est encore possible, parce qu'il en remet quelques fois, Porphyre. Faudrait bien dire un mot de la Vita, hein. Oui, parce que vous savez, dans cette Vita, il veut faire, c'est que Porphyre, devait beaucoup à Plotin. Non seulement il lui devait son savoir, sa philosophie, mais il lui devait également la vie, parce qu'il avait envie de se suicider. Et puis un jour, Plotin, qui avait un œil d'aigle, avait découvert qu'il allait se suicider, et lui avait dit: tu ferais bien d'aller faire un tour, de changer les idées un peu, pour faire un petit voyage, parce que ça va mal tourner. Il a dû lui dire quelque chose comme ça, puisque il en fait état dans la Vita Plotine et dans la vie de Plotin. C'est son maître bien-aimé. Il a rebricolé tout ce qu'il a entendu à ses cours. Il a mis ça par groupe de 9, parce que ça faisait plus joli, les Ennéades, hein, parce que c'est toujours plein d'histoires numériques, ça fait joli. Mais il y a une chose très curieuse, c'est qu'en plus, Porphyre était tout ce qu'il y a de plus antichrétien. Il avait écrit un Cata Christianon qui fichait le christianisme en l'air d'une façon, mais alors, terrifiante. Bon, très dur. Et curieusement, un jour, là, je parlais moi de livrer ma propre expérience. Un jour, je me suis aperçu, en lisant d'un côté la vie de Plotin de Porphyre, et puis de l'autre côté les Évangiles dans l'édition de Nestle en grec, je me dis mais c'est drôle. Il y a beaucoup de correspondance entre les Évangiles et la Vita Porphyri. Et de fait, des choses très normales, laissez venir à moi les petits-enfants, dit Jésus, et Plotin dit quand les parents étaient sur le point de mourir, ils confiaient leurs enfants à Plotin, mais ils disaient c'était des gens qui avaient pignon sur rue, enfin pour qu'ils fassent attention à leurs biens. ou bien et les disciples ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et même chose avec les mêmes verbes grecs dans Porphyre.
C'est ce que vous dites dans Des dieux et des mots. Vous dites que Porphyre a évangélisé Plotin.
C'est tout simplement l'évangile de Plotin selon saint Porphyre, parce que ce qu'il veut dire aux gens de son époque, il est très alarmé par le christianisme qui prolifère, et il leur dit. Mais pourquoi allez-vous voir les gens de ce Christos là, que c'est nul, enfin, c'est des pauvres types, c'est des pêcheurs, des gens comme ça, des pêcheurs juifs, vous allez faire affaire avec ces gens-là, bon, enfin, alors que vous avez un maître qui là, si vous allez vers lui, alors là vous verrez, vous voyez. Et j'avais été frappé du nombre, j'ai même écrit un gros article là-dessus qui a paru dans le Muséum Helvetikum de Suisse, parce que j'avais été frappé cette correspondance, hein, c'est un évangile.
Plotin n'aimait pas écrire, raconte Porphyre. Il a écrit de mauvaises
notes.
Platon non plus. Socrate, non. Platon était quand même le greffier de Socrate.
Oui, mais tout ce qui était écrit, regardez ce qu'il dit dans la lettre 7, si mes souvenirs sont exacts.
Dans la lettre 7,
oui. Oui, il aime pas du tout les pensées qui vont sur, on dit pas sur papier à l'époque, mais enfin sur parchemin, sur tablette ou sur tout ce qu'on veut. Il aime
en
pas
cela,
ça.
En cela, Plotin est profondément platonicien, puisque lui-même n'aime pas écrire, mais Porphyre raconte dans la vie de Plotin que, il dictait, donc ses cours, et on les prenait en note, et il parlait comme les idées lui venaient, avec des répétitions, donc un certain nombre de redites, et il lui arrivait d'être interrompu, raconte Porphyre. À ce moment-là, il répondait élégamment à la question qu'on lui posait, il pouvait entamer une autre conversation, et au terme de cette conversation, reprendre très exactement le fil de son propos, là où il l'avait laissé. Et Porphyre a cette phrase que je trouve magnifique, il dit « Plotin restait en lui-même tout en étant aux autres. »
Il était toujours... Mais il était celui que l'un posait à ce moment-là avec l'aide de Plotin, en suscitant l'aide de Plotin, si vous voulez. C'est ça qui est beau dans le néoplatonisme, c'est que nous ne sommes pas des dieux, bien sûr, mais...
Nous le sommes un peu quand même.
Parce qu'ils nous le donnent de l'être. Voilà, l'un nous donne de quoi être un. Il nous donne de quoi être âme, il donne à l'âme de quoi être intellect, et il donne à l'intellect de quoi non pas être un, puisque l'un est au-delà de l'être.
Mais s'unir
et
au sens
quoi,
propre.
De quoi soupirer vers cet absolu d'unité, qui serait le sublime absolu, mais dans lequel on ne peut pas s'installer, parce qu'à ce moment-là, on serait déjà dégringolé. Il y a juste cet instant. On ne peut que jouxter l'absolu de l'un, parce que dès lors qu'on s'y installerait, eh bien, comme on dit élégamment, ça serait foutu. On serait déjà retombé au niveau de l'intellect. Ça serait la pensée de la pensée. On retombe
la conscience de soi.
Noésis, noéseos d'Aristote.
Hein, autrement dit, celui qui se regarde être uni avec l'un déchoit déjà.
Voilà, la dernière chose à faire. Oh, ce que je suis bien avec l'un.
Qui tombe en extase devant son propre dénuement.
Il aurait 1/20 au cours de Plotin, n'est-ce pas? Il risque pas d'avoir la mention. D'ailleurs, qui serions-nous si nous n'étions pas nous-mêmes et uniquement nous sommes seuls à être nous, hein? Qui a bien vu ça, c'est Vladimir Jankélévitch, justement. On est seul à être soi, cette ipséité, pour dire ça philosophiquement, dans le jargon philosophique ou le patois. On est une ipséité, on n'est pas autre chose, on n'en sort pas, on peut pas en sortir, on peut essayer d'en sortir. Et d'ailleurs, on en sort peut-être plus facilement en essayant de forcer un peu l'intimité des morts, de ceux qui nous ont précédés. Essayer de vivre un moment avec eux pour coïncider. Essayer de coïncider, ne serait-ce qu'un instant, avec ce qu'ils ont été. Comprendre pourquoi ils ont dit ça plutôt qu'autre chose, et à ce moment-là de leur vie et pas un autre, hein. Quand ça les a pris, pourquoi, Et là, justement, en même temps, il y a comme une découverte de soi, comme si l'autre qu'on vient de jouxter un moment, vous avez rendu quelque chose de vous-même, une clarté un peu moins obscure, l'obscure clarté qui tombe des pages des philosophes, et ça aide, ça empêche d'abord d'être emberlificoté de soi.